plus.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 29 octobre 2020. Eric Madelakiza en votre compagnie. D'abord le sommaire. Présidentiel en Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo appelle au dialogue pour éviter la catastrophe. En Tanzanie, le principal opposant Tundu Lissu rejette en bloc les résultats des élections. Une agression au couteau fait 3 morts dans la basilique Notre-Dame de Nice, dans le sud-est de la France. Les sports, ce sera juste après le journal. On commence d'abord par la présidentielle aux États-Unis. À 5 jours du vote, le président Donald Trump et son challenger Joe Biden font campagne pour la première fois au même endroit, à Tampa, dans l'État de Floride. Hier, le locataire de la Maison Blanche a sillonné l'Arizona alors que l'ancien vice-président Biden a pris part à des événements virtuels. Compte rendu, Jacques Aristide.
Le président Trump a tenu hier 2 grands meetings à Bullhead City et à Goodyear en Arizona, un de ses états décisifs pour le scrutin du 3 novembre, un état qu'il avait déjà visité 6 fois. Le président sortant a mis l'accent sur l'emploi avec un appel à la communauté hispanique très importante en Arizona. J'ai fait ce qu'aucun autre n'a fait avant moi pour les Américains d'origine hispanique, dit-il. Au sujet du coronavirus, Donald Trump a affirmé que son rival Joe Biden et ceux qu'il qualifie de socialistes démocrates retarderaient le vaccin et prolongeraient la pandémie, fermeraient les écoles et le pays. Il a également abordé la situation dans la ville de Philadelphie, mise sous couvre-feu hier, après qu'un Africain-Américain de 27 ans, Walter Wallace, souffrant de problèmes psychologiques, a été abattu par des policiers, provoquant manifestations et pillages.
Hier soir, la ville de Philadelphie a été saccagée par des foules violentes composées de partisans de Biden pour une 2e nuit consécutive. Nous aurions pu arrêter cela. Nous aurions pu arrêter cela en 12 minutes. Les magasins ont été pillés. On a tiré sur presque 10 de personnes et des dizaines d'officiers ont été blessés.
La codicière de Joe Biden, Kamala Harris, s'est également rendue en Arizona hier. L'ancien vice-président démocrate a lui passé toute la journée dans sa petite ville du Delaware, où il a animé un briefing sur la pandémie de Covid-19 en visioconférence. Je ne me présente pas sur la fausse promesse que je serai capable de mettre un terme à cette pandémie en claquant des doigts, a déclaré l'ex-bras droit de Barack Obama. Mais ce que je peux vous promettre, c'est de faire ce qu'il faut. Nous laisserons la science guider nos décisions, ajoute-t-il. Puis, accompagné de son épouse Jill Biden, le candidat est allé voter à Wilmington. Joe Biden a aussi fait une apparition surprise lors d'un événement virtuel organisé par Oprah Winfrey pour encourager les femmes noires à voter. Il s'est adressé à Mildred Madison, une femme de 94 ans qui aurait conduit des centaines de kilomètres de l'Illinois à son état natal du Michigan afin de voter pour lui.
Vous êtes tellement inspirante. J'espère que vous acceptez le compliment. Vous me rappelez tellement ma mère. Ma mère parlait de devoir, honneur, exigence, de courage, la plus grande de toutes les vertus, car sans cela, vous ne pourriez pas aimer avec abandon. Entendre votre histoire me donne davantage d'espoir, d'énergie et d'optimisme pour le pays.
Plus de 74 millions d'électeurs sur les plus de 230 millions d'électeurs américains ont déjà voté par anticipation, un record historique.
À quelques jours des élections du 3 novembre, les campagnes du président Donald Trump et du candidat démocrate Joe Biden ont reçu du renfort. Le reportage de la correspondante de la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara, avec le récit d'Abdulrahman Dia.
L'ancien président Barack Obama fait le tour du pays, battant campagne pour son ancien vice-président Joe Biden. Son boulot, attaquer verbalement le président Donald Trump.
C'est quoi son dernier message? Que les gens sont concentrés sur le COVID. Il a dit lors d'un de ses rassemblements, COVID, COVID, COVID. Il se plaint. Il est jaloux de la couverture médiatique du COVID.
Avec ce ton moqueur, Barack Obama passe à l'offensive alors que Biden a un message d'unité.
Nous allons guérir cette nation.
Il se présente comme celui qui va unir ce pays divisé. Whit Harris est stratégiste républicain.
Normalement, c'est le rôle du candidat à la vice-présidence, mais quand vous avez quelqu'un qui est aussi bon pour lancer des piques que Barack Obama et qui semble disposé à jouer ce rôle, puisqu'il est plus populaire et mieux connu que Kamala Harris, ça peut se comprendre.
George W. Bush, le dernier président républicain avant Trump, n'a pas battu campagne pour ce dernier.
Rappelons-nous d'abord que nous avons déjà été confrontés à des périodes difficiles. Après le 11 septembre, j'ai vu une grande nation s'unir pour honorer les courageux, faire le deuil et assumer de nouvelles tâches.
En mai, Bush a publié un message d'unité en pleine pandémie. Trump a répondu par un tweet le critiquant pour son silence pendant son procès en destitution. Sa campagne s'appuie plutôt sur les enfants adultes du président, Don Jr., Eric, Tiffany et Ivanka Trump.
Certains d'entre vous étaient probablement démocrates il n'y a pas si longtemps, mais vous ne reconnaissez plus votre parti. Leur plateforme présente veut transformer l'Amérique en un pays socialiste.
Thomas Schwartz est analyste à Vanderbilt University.
Il n'a pas ce type de loyauté en dehors de sa famille. La famille a acquis une grande notoriété au cours de ces années et sa base semble vraiment aimer voir ses fils et ses filles là-bas.
Il y a aussi les épouses des candidats. Jill Biden a été très active dans la campagne.
Quand Joe sera président, vous ne lirez pas les nouvelles en secouant la tête.
Quant à la première dame, Melania Trump, elle a fait sa première apparition en campagne solo mardi après s'être remise du COVID-19.
Merci pour tout l'amour et le soutien que vous nous avez apporté lorsque notre famille a été diagnostiquée porteuse du COVID-19.
Obama sera samedi avec Biden dans le Michigan. Trump fera campagne vendredi dans le Michigan, le Wisconsin et le Minnesota avec des candidats républicains en lice pour le Sénat.
L'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo, qui ne s'était pas exprimé publiquement depuis son arrestation en avril 2011, a affirmé jeudi que la Côte d'Ivoire allait vers la catastrophe et appelé au dialogue dans une interview à TV5 Monde. Eddie Sango fait le point.
Ce qui nous attend, c'est la catastrophe. C'est pour ça que je parle, a déclaré sur TV5 Laurent Gbagbo depuis la Belgique. Discuter, négocier, parler ensemble, il est toujours temps de les faire, a lancé l'ancien président ivoirien dont la candidature au scrutin des samedis a été rejetée par les conseils constitutionnels. Jusqu'ici, toute tentative de dialogue entre les pouvoirs et l'opposition sont restées lettres mortes. Pourquoi veut-on un troisième mandat? Il faut qu'on respecte ce qui est écrit. C'est qu'on dit, si on écrit une chose et qu'on fait une autre, on assiste à ce qui arrive aujourd'hui, a estimé M. Gbagbo. Le président Alassane Ouattara a annoncé en mars qu'il renonçait à une nouvelle candidature avant de changer d'avis en août à la suite du décès de son dauphin désigné, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au total, une trentaine de personnes sont mortes dans les violences préélectorales.
De nouvelles violences ont fait un mort dans la nuit de mercredi à jeudi. Dernier jour de la campagne pour la présidentielle de samedi, un jeune commerçant a été poignardé dans le quartier populaire de Yopougon à Abidjan et plusieurs véhicules incendiés. Nous y reviendrons dans notre page magazine. En Tanzanie, Tundu Lissu, principal candidat de l'opposition à la présidentielle, rejette d'avance les résultats des scrutins présidentiels et législatifs d'hier. Les premiers résultats donnent une large avance au président sortant John Magufuli et à son parti. Les précisions de John Lindon.
Dénonçant une fraude d'une ampleur sans précédent, Tundu Lissu a qualifié ses scrutins d'imposture totale. Candidat du principal parti d'opposition Chadema, il a déclaré que des observateurs de son parti ont été empêchés d'entrer dans des milliers de bureaux de vote ou en ont été expulsés de force. Évoquant des résultats illégitimes, l'avocat de 52 ans a appelé ses supporters à des manifestations démocratiques et pacifiques et au soutien de la communauté internationale. Nous n'acceptons et ne reconnaissons aucun résultat issu de ce processus qui est celui d'un gang qui a décidé de rester au pouvoir, coûte que coûte, a-t-il accusé. Plus de 29 millions d'électeurs en Tanzanie continentale et 556 000 sur l'archipel semi-autonome de Zanzibar ont voté mercredi pour élire leur président et leurs députés. Pour la présidentielle, les premiers résultats partiels donnent John Magufuli, 61 ans, en tête avec 80% des voix dans 12 circonscriptions sur 264. Il est suivi de Tundu Lissou, dont la meilleure performance dans ces 12 circonscriptions ne dépasse pas les 15%.
Au moins 140 personnes sont mortes noyées dans un naufrage d'une pirogue au large des côtes sénégalaises. Des pêcheurs ont réussi à sauver 5 à 9 personnes et récupérer les restes de 20 autres. En France, au moins 3 personnes ont été tuées, dont une égorgée à Nice, dans le sud-est du pays. L'auteur de cette attaque est aux arrêts et le parquet antiterroriste est saisi. Mohamedou Oumfa pour les détails.
Vers 9h, un local, un homme a attaqué à l'arme blanche des paroissiens qui se trouvaient à l'intérieur de la basilique Notre-Dame au cœur de Nice. Cette attaque est menée à quelques jours de la fête catholique de la Toussaint qui célèbre le 1er novembre les saints de l'Église. Les victimes sont 2 femmes et 1 homme. La première femme a été égorgée à l'intérieur de l'église. Une autre femme, blessée au couteau, a réussi à s'enfuir pour se réfugier dans un bar proche où elle a succombé peu après. Quant à l'homme, il a été retrouvé mort également à l'intérieur de l'église. L'auteur de l'attaque a été rapidement interpellé. Il a été blessé par balle et transporté dans un hôpital. Le service de déminage s'est rendu sur les lieux pour sécuriser le périmètre. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un homme de 25 ans qui dit s'appeler Brahim. Le parquet national antiterroriste qui a été saisi le poursuit pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels.
L'Union européenne a affiché sa solidarité avec la France et appelé à l'union contre ceux qui répandent de la haine. Le Vatican a condamné cette agression, affirmant que le terrorisme et la violence ne peuvent jamais être acceptés. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Et dans la page des sports, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a annoncé qu'il va briguer un deuxième mandat à la tête de l'instance africaine du football. La CAF a beaucoup changé depuis 4 ans. Je suis fier du travail accompli par mon équipe. Après réflexion et consultation, j'ai décidé de me représenter, a-t-il annoncé sur Twitter. La CAF doit tenir le 12 mars 2021 son assemblée générale élective chargée de désigner un président. À l'été 2019, le président Ahmad a demandé l'aide de la FIFA pour superviser son organisation fragilisée par plusieurs polémiques et des problèmes de gouvernance. La numéro 2 de la FIFA, la Sénégalaise Fatma Samoura, a effectué un mandat de 6 mois. Mais celui-ci, qui visait à accélérer le processus de réforme au sein de l'instance, n'a pas été renouvelé depuis février 2020. En juin 2019, à Paris, Ahmad Ahmad a été interpellé et placé en garde à vue pour des soupçons de corruption. Il est ressorti libre. Football, toujours, et nous prenons la direction de l'Europe pour parler de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone de Lionel Messi a dominé la Juventus Turin, privé de Cristiano Ronaldo en quarantaine 2-0 lors de la deuxième journée hier. Dans les autres rencontres, le FC Séville a battu Rennes 1-0, 2-0 pour le PSG devant Basaksehir, 4-0 pour Chelsea face à Krasnodar avec un grand gardien sénégalais, Ferland Mendy. Manchester United a éclaboussé le RB Leipzig 5-0, entre autres résultats. Des nouvelles de la NBA, les Houston Rockets sont sur le point d'enrôler Stephen Silas, entraîneur adjoint des Dallas Mavericks, pour prendre les rênes de l'équipe menée par la star James Harden. Une officialisation du transfert va bientôt intervenir. En attendant, le propriétaire des Mavs, Mark Cuban, n'a pas attendu pour saluer l'opportunité offerte aux techniciens qui assistaient depuis deux saisons, le coach texan Rick Carlix. Félicitations au coach Silas, a-t-il tweeté. Silas, fils de l'ancien joueur et entraîneur Paul Silas, va succéder à Mike D'Antoni, qui n'a pas souhaité poursuivre l'aventure à Houston après cinq saisons. À 46 ans, il se voit offrir son premier poste d'entraîneur en chef après 20 saisons accumulées les différents postes d'adjoint à la Nouvelle-Orléans, Cleveland, Washington, Golden State et Charlotte, avant d'officier à Dallas.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, une personne a été tuée la nuit dernière à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan, ancien fief de jeunes patriotes fidèles à Charles Blé Goudé. La campagne pour la présidentielle du 31 octobre prend fin ce jeudi. L'opposition maintient son mot d'ordre de désobéissance civile. L'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, a rompu le silence, affirmant que son pays va vers la catastrophe et il a appelé au dialogue. Yacouba Ouedraogo a joint Jean-Mélène Biti, journaliste basé à Yopougon.
Ce sont des jeunes personnes, un groupe de personnes encagoulées dont les riverains n'ont pas pu voir d'âge, qui ont mis feu à des taxis, des bus et tatas, engins en transport en commun, communément appelés tatas, et qui ont, dans leur foulée, poignardé un monsieur, malheureusement, qui est décédé. On n'a pas encore l'identité de ces personnes-là.
Yopougon est réputé pro-Gbagbo et donc pour l'opposition, hein, Laurent Gbagbo a fait sa première sortie, hein, sortie publique, on va dire, hein, depuis son arrestation en 2011. Comment ses partisans ont réagi à son message de soutien à l'opposition?
C'est une commune, comme vous l'avez dit, qui est restée fidèle à Laurent Gbagbo et cela s'est senti dans l'annonce de sa déclaration. J'ai suivi ça et là, certaines personnes interrogées qui sont heureux d'abord parce que depuis près de 10 ans, le monsieur n'avait pas fait une apparition publique parlant à ses militants. Ils l'ont vu certainement loin lors des procès à la CPI. Mais aujourd'hui, en tant qu'homme acquitté, ils sont heureux de revoir leur leader en pleine forme, prendre part à la vie politique ivoirienne, donner un message. Ils ont reçu ce message-là avec beaucoup, beaucoup d'émotion et je pense qu'ils sont vraiment satisfaits du message de leur leader.
Le pouvoir maintient l'élection présidentielle pour le 31 octobre. L'opposition a lancé son mot d'ordre de désobéissance civile. Comment est l'atmosphère à Abidjan en général? Est-ce qu'il faut craindre?
Nous sommes dans une situation quand même tendue où chacun essaie de prendre ses précautions parce qu'on ne sait jamais. Mais selon les autorités ivoiriennes, des solutions sont prises pour que ces élections-là se passent dans la paix. Il y a plus de 35 000 hommes qui ont été déployés sur le territoire national pour pouvoir sécuriser ces élections-là. L'opposition dit qu'elle va procéder par tous les moyens pour ne pas que cette élection se tienne. Il ne faut pas se mentir. Forcément, il y aura des postes de résistance ou de violence. Je pense que c'est quand même une situation à craindre. Et puis, il faut aussi faire remarquer que bon nombre d'Ivoiriens ont commencé à regagner certains la vie de l'intérieur et de peur parce que l'habitant est le puissant, je dirais, de tout ce mouvement-là.
Nous sommes à 2 jours hein, de l'élection présidentielle. Est-ce que, par exemple, dans les bureaux de vote désignés, vous sentez des mouvements pour installer les urnes et autres?
C'est vrai que le matériel de vote a été déployé, je pense que partout en Côte d'Ivoire. On attend le jour J, on attend le jour des élections pour voir si réellement il n'y aura rien. Voilà.
Jean-Mélène Biti, joint à Yopougon, un quartier populaire à Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Sénégal, après la surprise d'hier avec la dissolution du gouvernement et l'éviction de la présidente du Conseil économique, social et environnemental, les avis sont partagés. Les uns estiment que le moment n'est pas propice, tandis que d'autres se projettent déjà sur l'avenir en espérant un gouvernement plus performant. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Covid-19, inondation, immigration clandestine, pour beaucoup de Sénégalais, les urgences du moment devraient être la priorité du président Macky Sall. C'est l'avis de Bintou Koli. Elle pense que le remaniement pouvait attendre.
Ces derniers temps, on a vu qu'il y avait un bateau qui a coulé. Et je pense que les Sénégalais, jusqu'à présent, attendent qu'il sorte pour dire quelque chose. Et jusqu'à présent, il n'a pas dit un seul mot. Je pense qu'il y a des choses, la crise économique et la crise sanitaire. Je pense qu'il y a des problèmes beaucoup plus sérieux sur lesquels il devrait se focaliser plutôt que de faire des remaniements.
D'un autre côté, il y a les citoyens qui voient cette dissolution du gouvernement d'un bon œil. Pour Fama Diop, c'était nécessaire dans la mesure où l'équipe sortante montrait des limites dans beaucoup de domaines.
Jusqu'ici, on voit que dans le gouvernement, il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent, à part peut-être au niveau des travaux publics et ces genres de choses-là, je vois que ça bouge. Mais à part ça, je ne vois pas les autres secteurs bouger, honnêtement, côté économique. Voilà, côté relance de l'économie, après le Covid, je ne vois absolument rien de tout. Donc, je crois que c'est normal ce qu'il a fait. Parce que si, à mon avis, si j'étais à sa place, je le ferais. Parce que je ne vois pas les choses bouger du tout. Voilà, peut-être d'une certaine manière, il cherche peut-être à résoudre des problèmes.
Cheikh Labou pense qu'il ne faut pas changer juste pour la forme. Pour lui, il est important de mettre des hommes et femmes capables de faire face aux défis du moment.
Quand on parle de remaniement, c'est pas tout simplement le fait de changer une équipe, mais au-delà de l'équipe, des personnes qui seront changées, mais il y a également cet aspect qui est très important, qui est la question de l'apport des compétences et de l'orientation. Et je pense que si réellement le remaniement là est posé, je pense que ça peut apporter quelque chose par rapport aux priorités présentes du présent. Maintenant, reste à voir est-ce que les bonnes personnes seront choisies.
Au-delà des spéculations, les attentes concernant le nouvel attelage gouvernemental sont très fortes du côté des citoyens. Pour eux, il est important que le président de la République mette en place une équipe avec des personnes capables de répondre aux besoins des populations. À Dakar, Seydina Bagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
L'élection présidentielle américaine ne laisse pas les Camerounais indifférents. La campagne électorale, les débats télévisés sont suivis sur place de près à travers différentes plateformes. La jeune génération qui croit au rêve américain ne cache pas sa préférence pour un président américain favorable aux flux migratoires. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
Corinne et Jean-Marc sont tous deux étudiants en pétrochimie à l'université catholique Jean-Paul II à Yaoundé. Il manifeste un intérêt particulier pour la prochaine élection présidentielle américaine. C'est avec beaucoup d'attention qu'ils suivent la campagne électorale et notamment la question de l'immigration, telle que soutenue par les candidats Donald Trump et Joe Biden.
Nous voulons une personne qui va permettre à celles qui veulent connaître la technologie là de pouvoir entrer aux États-Unis. Et pour ça, je pense que le candidat Donald Trump n'est pas la personne indiquée.
Il devrait prôner l'immigration pour permettre aux jeunes Africains ou Camerounais, s'ils veulent peut-être aller continuer les études, cela pourrait beaucoup les aider.
Aristide est un étudiant en informatique à l'Institut supérieur Sciences Po. Il a regardé Madeleine l'heure tardive, les deux débats télévisés mettant aux prises Donald Trump et Joe Biden. C'est ainsi qu'il a, selon lui, pu se faire une idée des priorités des deux adversaires durant leur prochain mandat.
La position de Donald Trump est beaucoup plus axée sur la puissance américaine. Il cherche à écraser l'évolution des autres puissances, que ce soit occidentales, asiatiques. Joe Biden, lui, il est beaucoup plus axé sur les questions de famille. Il a profité des émeutes qu'il y avait la dernière fois avec l'assassinat du Noir et du Covid, même en quelque sorte. Parce que toutes les analyses montrent que Donald Trump a complètement échoué sur la question de la maîtrise du Covid-19.
Un mouvement de soutien au président Donald Trump, baptisé Trump African Supporters, existe depuis 2015 et est dirigé depuis le Cameroun par André-Marie Dibamo. Il est auteur d'un récent ouvrage intitulé « Le phénomène Trump et l'effondrement de l'ordre établi ». André-Marie Dibamo, président de la Trump African Supporters.
Malgré la pandémie de la Covid-19, le président Trump continue littéralement de séduire, malgré son âge, malgré le Trump bashing et tout ce que vous pouvez imaginer, il continue de séduire, y compris en Afrique, y compris dans la communauté noire. Il vous souvient notamment qu'il a bénéficié d'un soutien inattendu de Sarah Sanders, qui a littéralement consacré un ouvrage de 400 pages sur la vie de Donald Trump.
Cependant, certains clichés, comme l'âge avancé des deux candidats à la course pour la Maison-Blanche, laissent les Camerounais interrogateurs sur le rajeunissement de la classe politique américaine.
On a pour habitude de dire qu'en Afrique, ce sont des vieux qui dirigent aux États-Unis. Quand on regarde aussi également l'âge des candidats de ce côté-là, on se dit peut-être que la jeunesse aurait peut-être son mot à dire pour la suite des événements.
On voit ce pays qu'on pense, ils sont des modèles pour nous, faire aussi pareil si on se pose la question que le pouvoir est gouverné uniquement par les vieux.
Les Camerounais sont impatients de voir la nature des relations diplomatiques entre Washington et Yaoundé lors du prochain mandat. Au cours du précédent, les rapports entre l'administration Trump et le régime de Yaoundé ont été parfois tendus sur les questions de droits de l'homme et de la crise anglophone. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, nous faisons le point sur la course à la Maison-Blanche, mais aussi les élections au Sénat et à la Chambre des représentants. Le prochain président américain espère disposer d'une majorité au Congrès pour avoir une plus grande marge de manœuvre dans la mise en œuvre de son agenda. Où en est-on dans la campagne pour la présidentielle à quelques jours du scrutin? Quels sont les États à surveiller? Quelles sont les courses à observer au Congrès? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.org.
Certains pays ont remis en place des mesures drastiques pour faire face à la deuxième vague de Covid-19. La France va se reconfiner demain vendredi et les cafés et restaurants vont fermer pour au moins un mois. Mercredi, le pays comptait plus de 3000 personnes en réanimation, un niveau inédit en 6 mois. Nathalie Barge a joint à Paris le docteur Philippe de Botton, président de Médecins du Monde en France.
Tout le monde est un peu sidéré par une situation qui est visiblement hors de contrôle. Hein. Visiblement, on a beaucoup de mal à la contrôler. Je pense que maintenant, il faut essayer de faire en sorte que personne ne soit mis sur le bord de la route. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'ensemble de la population française, même les plus exclus d'entre nous, soient pris en charge, puissent être un peu aidés et accompagnés. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire à Médecins du Monde, dans la mesure où on s'adresse quand même à des populations qui sont dans les campements, dans les squats, dans la rue, et qui sont des populations qui souffrent encore probablement plus. Elles n'ont pas de toit, elles n'ont pas de quoi se laver les mains, elles n'ont pas de quoi se protéger. Il y a des problèmes d'alimentation, de nourriture. Mais il faut vraiment qu'on s'occupe, on puisse vraiment prendre en charge les personnes, c'est-à-dire qu'on puisse les personnes à la rue les isoler, leur donner un toit, faire en sorte qu'elles puissent accéder à la nourriture, se soigner, etc. Il faut que les exilés, les migrants qui sont dans des campements, on les régularise au moins temporairement de manière à ce qu'elles puissent accéder simplement aux droits fondamentaux, enfin, etc. quoi. Cette crise met en évidence que on doit sanctuariser, on doit faire en sorte que la médecine, que l'accès aux soins, que la prévention, ce soit pour tout le monde.
Est-ce que l'on arrive à mieux traiter les personnes qui seraient gravement atteintes de la Covid-19?
Oui. Maintenant, il y a visiblement, ça ne suffit pas malheureusement à désengorger les hôpitaux, mais quand même, je pense qu'en quelques mois, les hôpitaux, les médecins généralistes, enfin, tous les personnes qui soignent les patients atteints de Covid en réanimation ou même dans les services de pneumologie, avec des cocktails qui allient l'oxygénothérapie, la corticothérapie et aussi des traitements anticoagulants pour éviter un peu des syndromes toxiques, on soigne mieux. On évite quand même énormément de formes très sévères qui avant nécessitaient des intubations en réanimation et qui en fin de compte n'étaient pas tellement très favorables. Il y a une prise en charge médicale qui est quand même nettement meilleure par rapport à il y a 6 mois ou 7 mois.
Comment vous l'expliquez, cette nouvelle vague?
C'est une maladie nouvelle. On connaît mal ce virus. Et en réalité, on ne sait pas du tout quels sont les critères, qu'est-ce qui fait que c'est plus virulent à telle ou telle période, c'est plus virulent à telle ou telle saison, c'est plus virulent dans tel continent par rapport à d'autres. Comment? En fin de compte, on a beaucoup de mal. Vous savez, en médecine, il faut des fois une bonne dizaine d'années pour connaître vraiment une maladie. Et là, le problème, c'est qu'on est un peu dans l'accélération du temps, que tout le monde, il y a une espèce d'accélération médiatique qui fait que, en fait, on voudrait tout connaître en médecine. Et le problème, c'est qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que cette deuxième vague, on la pressentait, toute l'Europe est prise. Donc, en réalité, même dans les pays qui ont été les plus précautionneux ou quoi que ce soit, et pourtant tout le monde est touché. Donc en réalité, je pense qu'on connaît très mal cette maladie, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à avoir une prévision. Rien ne laissait prévoir un tel emballement en une quinzaine de jours.
Philippe de Botton, président de Médecins du Monde en France. C'est la fin de cette édition. Ainsi va le monde aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la mise en onde, à la présentation Eric Manilakidza. Merci d'avoir suivi le monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Excellente soirée à tous.